débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous, nous poursuivons sur RFI notre programmation spéciale à quelques heures du sommet historique entre Donald Trump, le président américain, et Kim Jong-un, le leader nord-coréen. Gros plan dans le débat du jour sur l'un des enjeux de cette rencontre qui pourrait déboucher sur un résultat concret. Cela concerne les relations entre les deux Corées, Séoul et Pyongyang, qui à ce jour sont toujours techniquement en guerre, 65 ans après la signature d'un armistice qui n'a jamais abouti à un traité de paix. Alors, est-ce que cet accord peut voir le jour à l'occasion du sommet de Singapour? Est-ce qu'on peut être optimiste ou est-ce que les obstacles sont trop importants? C'est notre débat ce soir. Et nos deux invités, Valérie Gelézeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice d'études à l'EHESS, qui est l'école des hautes études en sciences sociales, spécialiste de la Corée. Face à vous, Théo Clément, bonsoir.
Bonsoir.
Doctorant à l'Institut d'Asie orientale et à l'Université de Vienne. Alors, première question, 65 ans donc, après la fin militaire de la guerre de Corée, à quoi ressemblent aujourd'hui les relations entre Séoul et Pyongyang, Valérie Gelézeau?
Aujourd'hui, à l'instant T, on est dans une nouvelle phase du cycle des relations intercoréennes qui se développe depuis la fin de la guerre de Corée sur un rythme cyclique de rapprochement, hostilité. Et là, donc, on assiste depuis l'arrivée au pouvoir de Moon Jae-in, le président sud-coréen, qui est arrivé au pouvoir en 2017, qui a été élu avec un programme très clair de réactivation du dialogue avec le Nord. On est dans un cycle donc plutôt d'ouverture. On est dans ce cycle-là d'ouverture vers le Nord. Je rappelle qu'il succède au contraire à 10 ans d'hostilité, au contraire de retour en arrière, qui avait encore précédemment, entre 98 et 2008, été une phase de rapprochement. Donc on est depuis 20 ans en fait, on a eu 10 ans, 98-2008, une phase de ce qu'on a appelé la Sunshine Policy, qui a vu le rapprochement des deux Corées, et ensuite 2008-2017, un retour en arrière. Et donc de nouveau le cycle se développe positivement.
Donc des cycles qui changent, vous le dites régulièrement, tous les 10 ans, mais malgré tout, deux pays qui sont toujours techniquement en guerre, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce que ça veut dire, deux pays techniquement en guerre aujourd'hui?
Deux pays techniquement en guerre, c'est très intéressant comme question. Ça veut dire que à l'issue de la guerre de Corée a été signé un armistice, que d'ailleurs la Corée du Sud n'a pas signé, puisque le président de l'époque ne voulait pas que la guerre se termine sans résolution de la partition, donc a refusé de signer l'armistice, et que cet armistice n'a pas été transformé en traité de paix. Et ce qui a des conséquences très concrètes sur, par exemple, la nature de la frontière, qui n'est pas une frontière internationale mais une zone démilitarisée, qui n'a pas été par exemple définie au niveau de l'espace maritime, ce qui explique pourquoi à cet endroit-là régulièrement on assiste à des batailles navales. Ça a des conséquences par exemple sur l'existence d'une loi de sécurité nationale pour tous les Coréens, les Sud-Coréens, qui ne peuvent pas rencontrer leurs homologues du Nord. Donc il y a des conséquences extrêmement concrètes sur quand on parle de techniquement en guerre. En revanche, effectivement, c'est une situation de paix. Depuis, il n'y a pas d'opération militaire de grande envergure entre les deux Corées. Heureusement, on est dans une situation de paix, d'arrêt des hostilités depuis 1953.
Théo Clément, pour compléter un petit peu le tableau que vient de dresser Valérie Gelézeau, ça veut dire quoi aujourd'hui, concrètement, pour les Sud-Coréens? Quel est leur ressentiment face à leurs voisins du Nord et inversement, cette situation?
C'est difficile à dire, puisque le ressentiment de la population sud-coréenne est très échelonné en fonction notamment des générations. Alors, vous avez plusieurs divisions, les divisions idéologiques au sein de la société sud-coréenne, mais aussi la question générationnelle. Les jeunes générations aujourd'hui en Corée du Sud ont tendance, alors peut-être pas dans le contexte d'effervescence médiatique, politique et diplomatique actuelle autour de la Corée du Nord, mais la trame de fond, c'est que les jeunes générations de Corée du Sud ont tendance à moins s'intéresser à la Corée du Nord et ont tendance de plus en plus à se considérer comme des Sud-Coréens plus que comme des Coréens. L'évolution des deux pays, des deux régimes politiques, des deux presque deux cultures maintenant, ayant évolué de manière séparée pendant plus de 60 ans, les Sud-Coréens, les Nord-Coréens ont de moins en moins tendance à, ou du moins les jeunes Sud-Coréens, les jeunes Nord-Coréens ont de moins en moins tendance à se voir comme des Coréens.
D'accord, en fait pour les Sud-Coréens, il y a une seule Corée.
Pour certains Sud-Coréens, il y a une seule Corée. Pour le gouvernement, pour la constitution sud-coréenne, il y a une seule Corée. Pour la Corée du Nord, il y a une seule Corée dont la partie sud est envahie par les Américains. Mais, par contre, pour les populations, et notamment les populations du Sud, on a tendance de plus en plus à avoir l'émergence d'un sentiment d'appartenance à la Corée du Sud et non pas à la Corée.
Voilà pour la situation aujourd'hui, donc entre les deux Corées. Quels sont les freins aujourd'hui à un possible rapprochement à la fin de cette guerre technique, comme on l'a évoqué, entre les deux Corées, Valérie Jolézot?
Les freins sont extrêmement nombreux. Ils sont idéologiques, ils sont économiques, ils sont. On ne cesse pas comme ça. On ne peut pas, comme ça, d'un trait de plume, donc transformer cet armistice en traité de paix. On en parle. Enfin, ce serait quand même quelque chose de très important. Il me semble que la rencontre demain entre Donald Trump et Kim Jong-un, effectivement, est importante. Dans la presse coréenne, il était question là ces derniers jours que le président Moon Jae-in peut-être vienne participer éventuellement, que ce soit évoqué cette question du traité de paix. Elle le sera peut-être, mais peut-être que les deux leaders vont arriver à un accord.
Alors comment ils peuvent arriver à un accord de principe, pour que les auditeurs comprennent bien, en quoi est-ce que la balle aujourd'hui est dans le camp du président américain et du leader nord-coréen, alors que le président sud-coréen n'assistera pas au sommet de demain?
Parce que c'est eux qui, la Corée du Nord demande la reconnaissance de la part des Américains depuis très longtemps, et donc symboliquement c'est quand même très important. C'est la première fois qu'effectivement il y a une rencontre à ce niveau. Le fait même de discuter entre les deux, le président et le leader, enfin, le président américain et le leader nord-coréen, est tout à fait fondamental. Ils peuvent arriver à un accord, au moins disons verbal, de démarrer des pourparlers, mais il n'y aura pas plus. La question, elle est aussi sur la question nucléaire.
L'enjeu principal,
c'est la question nucléaire.
On arrive dans le cœur de ce débat. Est-ce que vous croyez, vous, à un accord de principe qui mette fin à la guerre entre les deux Corées demain lors du sommet Trump-Kim?
Alors, qui mette fin à la guerre entre les deux Corées, non, pour la simple et bonne raison que la Chine est signataire de l'armistice de 1953 et que sans présence officielle d'au moins d'un diplomate chinois, la signature du traité n'est pas du tout à l'ordre du jour, pas pour la rencontre entre Kim et Trump.
Donc, il y aura les États-Unis qui font partie, qui ont consigné l'armistice, mais il n'y aura pas la Chine.
Il n'y aura pas la Chine, non. Il n'y aura pas la Chine. Donc là, l'enjeu, c'est plutôt déjà l'enjeu est tout à fait historique, même si c'est pas la question de la guerre de Corée qui va se terminer, mais la question des relations diplomatiques entre la Corée du Nord et les États-Unis. C'est la première fois que les deux leaders en exercice à Washington et à Pyongyang se rencontrent, donc c'est tout à fait historique. Mais la question la plus importante, c'est la question de la dénucléarisation, c'est la question de la diminution des tensions militaires. Et c'est la question de établir un niveau de discussion, un canal de discussion qui fonctionne pour éviter de tomber dans des crispations militaires comme l'année dernière.
Mais en quoi est-ce que la question de la dénucléarisation est clé pour la fin du conflit entre les deux Corées? Parce qu'on a l'impression que c'est davantage une question qui préoccupe Washington.
Ben moi, je pense que c'est assez indépendant. Enfin,
Valérie Jolézot.
Le problème, justement, c'est que la question la question nucléaire, elle est au-delà de la question simplement des hostilités, enfin de la fin de la guerre de Corée. C'est une question qui est globale d'abord et qui regarde les relations nord-américano-nord-coréennes. C'est cette question-là.
Donc, mais est-ce que la dénucléarisation de la péninsule sonnera automatiquement? Bah justement, la fin de la guerre entre les deux Corées.
Alors non, d'une part, et d'autre part, la dénucléarisation de la péninsule, en entendant les trompettes de l'euphorie, je pense qu'il faut pas non plus confondre les choses. Obtenir une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible, comme le souhaite la communauté internationale, c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain, et à l'heure actuelle, je ne vois pas comment la Corée du Nord serait prête à ça aujourd'hui. Donc ils peuvent commencer des pourparlers, avancer vers des progrès, un gel, des choses comme ça. Mais la dénucléarisation, c'est un terme qui, pour moi, n'est pas du tout à l'ordre, enfin, en tout cas, concrètement réaliste.
Oui. Paradoxalement, s'il est peut-être plus facile d'arriver à un accord sur un traité de paix entre la Chine, les États-Unis et la Corée du Nord, plutôt qu'arriver à une dénucléarisation qui soit acceptable pour la Corée du Nord, mais qui comporte nécessairement des garanties de sécurité, des garanties économiques, des garanties technologiques de la part des États-Unis. Et ça risque de prendre extrêmement longtemps.
Qu'est-ce qu'on peut dire de la réunion qui a eu lieu à la fin du mois d'avril entre le leader nord-coréen et le leader sud-coréen? C'est la première fois depuis la signature de l'armistice qu'un leader nord-coréen foulait le sol du Sud. Les deux dirigeants sont engagés justement sur cette voie de la réconciliation, promettant la fameuse dénucléarisation complète de la péninsule. Un mois plus tard, il y a eu une seconde rencontre. Finalement, pourquoi ce sommet? Est-ce que ça a uniquement servi à préparer le sommet de Singapour, ou est-ce que c'est une pierre dans l'édifice de la paix entre les deux Corées?
Alors, ça a facilité sans doute la tenue du sommet de Singapour, notamment la deuxième rencontre qui a eu lieu 24 heures après que Donald Trump annule la rencontre qui était prévue avec Kim Jong-un.
À la fin du mois de mai.
Exactement. Mais ce premier sommet donc entre Moon Jae-in et Kim Jong-un a été véritablement une pierre un peu fondatrice de la reprise des pourparlers entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Une façon de relancer un dialogue qui avait été véritablement mis à mal par les années... par l'administration Park Geun-hye, donc l'administration conservatrice qui avait le pouvoir avant Moon Jae-in, qui avait presque bloqué toutes les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.
Et est-ce que vous partagez ce qu'a dit, on va vous réécouter, mais Valérie Jolézo au début de cette émission, à savoir que c'est une histoire de cycle, l'histoire de la Corée du Sud. Là, on est dans un cycle de pacification, d'essayer d'apaiser les tensions avec le Nord. Est-ce que on peut arriver dans un prochain cycle qui, du coup, mettrait à mal tous les efforts du président sud-coréen, selon vous?
C'est tout à fait possible. Ça dépend vraiment d'un nombre de facteurs qui est très important. L'attitude de la Chine, l'attitude des États-Unis, qui clairement l'administration Trump ayant malheureusement déjà un lourd passif de déchirement d'accords passés, notamment l'accord sur le nucléaire iranien, qui pourrait, si un accord est fait avec la Corée du Nord et que les États-Unis reviennent dessus, la confiance sera très difficile à remettre en œuvre. Et donc, oui, il y a encore des retours possibles, ils sont très importants, en Corée du Sud, en Corée du Nord, en Chine, aux États-Unis, partout.
Valérie Jolézo.
Oui, la difficulté en fait, enfin le caractère sur le caractère cyclique, on est devant une situation de reprise du dialogue intercoréen après non pas 5 ans de rupture, mais Park Geun-hye, la présidente sud-coréenne, a suivi la politique de Im Yong-bak qui avait en 2008 depuis 10 ans pratiquement démoli tout ce qui avait été fait entre pendant la décennie précédente. Donc là, ce qui s'est produit après les Jeux Olympiques, d'ailleurs les Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang, c'est que l'administration sud-coréenne a relancé, réactivé ce dialogue avec des équipes qui se connaissaient déjà et qui il y a 10 ans avaient déjà travaillé ensemble. Ça qui est assez intéressant, c'est que sur le plan concret et pratique, les pourparlers, les rencontres se sont faites au moment de l'organisation de la venue du leader nord-coréen au sud au moment des Jeux Olympiques. Ça s'est fait sur des équipes qui se connaissaient déjà et qui avaient déjà travaillé ensemble 10 ans auparavant. Donc ça, c'est tout à fait important.
Et Moon Jae-in, justement, le président sud-coréen, est-ce qu'il a joué les facilitateurs pour l'organisation du sommet de Singapour parce que cela sert son propre intérêt, celui de parvenir à une paix durable, une stabilité de la région entre les deux Corées?
Oui, il faut savoir que Moon Jae-in fait partie d'un groupe de Coréens dans la population sud-coréenne, qu'on appelle les Ibuk Chulshin, c'est-à-dire des familles qui sont originaires du Nord et qui sont arrivées au Sud pendant la grande période de division entre 1945 et 1953, c'est-à-dire avant la fermeture de la frontière définitive avec la DMZ. Et donc, c'est des personnes qui, effectivement, ont un attachement au Nord et ont été déjà en 98 artisans d'une première période de rapprochement avec des effets concrets et notamment l'ouverture des deux zones économiques spéciales à la frontière intercoréenne, donc le complexe industriel de Kaesong et la zone touristique du Mongeumgang. Donc ça, c'est des équipes qui ont déjà œuvré pour ce rapprochement à partir des choses concrètes, non pas simplement des mantras de la dénucléarisation ou de la fin de la guerre, mais vraiment des relations, des échanges culturels, des échanges économiques, donc avec la mise en place de toute une architecture, une loi de coopération et d'échange, etc.
Alors si ce rapprochement se concrétise donc demain avec peut-être un accord de principe entre Trump et Kim, qu'est-ce qu'il faudra faire ensuite, concrètement, Théo Clément, pour parvenir enfin à cette paix durable entre les deux Corées? Vous évoquiez le rôle de la Chine, signataire de l'armistice en 1953.
Alors, la tâche est tout à fait herculéenne, puisque on est en face de deux leaders qui ont décidé, qui ont accepté de se parler pour la première fois. C'est déjà un immense pas en avant, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques à régler. On s'achemine véritablement vers une déclaration, peut-être un accord qui sera un accord très vague.
Donc demain.
Demain, qui sera pas du tout concret, quelque chose de
ce qu'on appelle un accord de principe.
Un accord de principe, mais même sur certains termes clés, à mon avis, seront pas définis demain. La question de la dénucléarisation, est-ce qu'on parle de la dénucléarisation de la Corée du Nord, c'est-à-dire est-ce qu'on enlève les bombes atomiques nord-coréennes, les vecteurs nord-coréens, quels vecteurs, longue, moyenne portée, etc.
Mettons qu'ils se mettent d'accord sur un accord de principe. Qu'est-ce qui peut se passer après? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que cet accord de principe se transforme concrètement en une paix durable, une stabilité de la région?
Alors, il faudra d'un côté mettre en œuvre un processus de vérification des désarmements de la Corée du Nord, mm-hmm. ou de la Corée du Sud ou des États-Unis en fonction de l'accord. C'est-à-dire, il faudra faire venir des observateurs étrangers en Corée du Nord pour constater la dénucléarisation, ce qui va être particulièrement compliqué parce qu'il faudra un accès au territoire nord-coréen, à des endroits particulièrement sensibles du territoire nord-coréen. Il faudra que les nord-coréens l'acceptent. D'un autre côté, il faudra que les États-Unis et la Corée du Sud et la communauté internationale dans son ensemble donnent des garanties à la fois de sécurité, mais aussi des garanties d'intégration à la Corée du Nord, notamment reconnaissance diplomatique, diminution des troupes américaines stationnées en Corée du Sud, aide économique, aide technologique, etc. Ça risque d'être très compliqué à mettre en œuvre.
Valérie Jolézo.
Je crois que
les sanctions, bien sûr.
Eh bien, évidemment, là, je pense qu'un des enjeux pour la Corée du Nord, c'est la question des sanctions. On peut rappeler là ici.
Bah, dénucléarisation égale levée des sanctions.
C'est-à-dire que nécessairement, il y aura cet aspect-là sur la table. D'autant que la communauté internationale est passée en 2016 à des sanctions ciblées aux sanctions globales. Donc, ce qui a un impact beaucoup plus important. Donc, la Corée du Nord va avoir cet objectif. C'est-à-dire que il faut se mettre aussi du point de vue de la Corée du Nord, qui se sent menacé effectivement, par les États-Unis, qui a un objectif de développement de sa puissance nucléaire, mais qui a aussi veut diminuer ses sanctions. Donc c'est une négociation réellement.
Mais en partant du principe qu'il y a un accord de principe pour le coup demain entre Kim et Trump, est-ce que vous partagez les mêmes enjeux, les mêmes échéances qui interviendraient ensuite pour parvenir à cette stabilité que vient de dresser Théo Clément.
C'est-à-dire l'accès. Enfin, si on se place du point de vue de
l'intervention des observateurs étrangers, a-t-il dit notamment.
Oui, mais ça, je suis très très sceptique sur la mise en œuvre d'une telle tout de suite. C'est-à-dire le degré de méfiance entre les États-Unis et la Corée du Nord est tel que je vois pas comment ça peut arriver très vite.
Donc à quel horizon est-ce qu'on peut se projeter sur une fin de guerre, sur la fin de cette guerre technique entre les deux Corées concrètement?
C'est très difficile à dire. Ce que je constate aussi, c'est que par exemple l'ambassadeur qui vient d'être nommé l'ambassadeur des États-Unis en Corée du Sud qui s'occupe du dossier nord-coréen est Harry Harris, qui est un expert en géostratégie. C'était quelqu'un, un commandant du commandement pacifique des États-Unis, donc c'est un militaire, et c'est pas forcément un signe c'est un signe qui place cette discussion quand même sur un ton qui est assez particulier.
Théo Clément, qu'est-ce qu'on peut ajouter par rapport à justement cette tension militaire finalement que vous soulignez, qui risque de renforcer un petit peu ce climat de tension entre les deux pays?
Alors, il faut déjà voir quel sera le contenu de la déclaration issue du sommet de demain. Il faudra ensuite voir dans quelle mesure, au-delà de l'euphorie diplomatique, on peut véritablement progresser sur des objectifs concrets qui sont ceux du désarmement, mais aussi des garanties de sécurité de la part des États-Unis. Mais effectivement, je partage l'avis de Madame Jolézo, ça va être très compliqué, sauf si les États-Unis acceptent de revenir sur des fondements de leur politique nord-coréenne, de voir une dénucléarisation de la Corée du Nord, même à l'échelle de 10 ans. Siegfried Eker, qui est un physicien qui travaille au laboratoire de Stanford et qui a visité, dans le cadre de processus de désarmement précédent, qui a visité certaines installations critiques de Corée du Nord, ne parle pas de dénucléarisation avant 15 ans. Donc il y aura vraisemblablement une nouvelle administration aux États-Unis qui pourra avoir une vision différente du problème nord-coréen. Donc il y a on risque de retomber dans d'autres cycles.
Épineuse question de la dénucléarisation, donc de la stabilité de la région entre les deux Corées. Donc, à terme, une réunification impossible selon vous?
Je ne sais pas si la réunification est possible ou pas. Je ne sais pas si c'est aussi lié à la question de la dénucléarisation de la Corée du Nord. La question de la dénucléarisation est beaucoup plus plurielle que la simple question de la nucléarisation et des tensions militaires entre le Nord et le Sud.
À suivre donc dans les prochaines heures, notamment après le sommet de Singapour entre Trump et Kim. Merci beaucoup Théo Clément, doctorant à l'Institut d'Asie orientale et à l'Université de Vienne. Merci à vous Valérie Jolézo, maître de conférence en géographie à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de la Corée. Je vais citer votre dernier ouvrage qui a été publié il y a quelques semaines, quelques mois. Quelques jours. Des capitales de la Corée, édition du Collège de France. Fin de ce débat, réalisé par Valentin Vaner, préparé par Florence Ponce. Restez à l'écoute de RFI. Dans 30 secondes, le retour de l'info.